Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous êtes dans la joie ce matin parce qu'on va parler de la tristesse. Alors le thème du message de ce matin, c'est « Face à ma tristesse, endurcissement ou changement ?» Face à ma tristesse, endurcissement ou changement ? On va tout de suite commencer la lecture dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 7. On va lire les versets 8 à 11 et on va lire dans la version Parole vivante. C'est Paul qui parle et il dit « C'est pourquoi ?» Je ne regrette plus à présent de vous avoir causé de la peine par ma lettre. Je l'avais d'abord regrettée en voyant combien elle vous avait attristée sur le moment. Mais aujourd'hui, je me réjouis non certes de votre chagrin, mais de ce que cette lettre vous ait amené à changer d'attitude. La tristesse que vous avez éprouvée était conforme à la volonté de Dieu, si bien que nous ne vous avons en fait causé aucun tort. En effet, la tristesse conforme au dessein de Dieu, si elle est portée comme Dieu le désire, produit un changement d'attitude qui conduit au salut et que personne n'a encore eu à regretter. La tristesse, selon le monde, mène au désespoir et à la mort. Vous avez porté votre tristesse comme Dieu le voulait. Voyez quels effets elle a produits en vous. Quel empressement, quel sérieux. Bien plus, avec quels ailes vous m'avez défendu. Quelle excuse, quelle protestation de loyauté. Vous avez pris conscience de la gravité de la faute. Vous avez exprimé votre indignation, vous avez pris peur, vous désiriez ardemment me voir. Vous vouliez agir avec fermeté et punir sévèrement le coupable. Par tout votre comportement, vous avez prouvé que vous étiez innocent en cette affaire et que vous ne faisiez pas cause commune avec celui qui avait commis la faute. Amen. Ce matin, on parle de tristesse et plus particulièrement de celle qui se produit lorsque nos erreurs, lorsque nos failles sont dévoilés. Que nous découvrions cette faute par nous-mêmes ou que ce soit quelqu'un d'autre qui dévoile ces fautes dans nos vies, un sentiment de tristesse peut se produire. Et de ce sentiment, il y a deux types de tristesse qui vont en sortir. Deux qui peuvent se manifester, mais qui ne vont pas produire les mêmes fruits, qui ne vont pas produire les mêmes résultats. Un type de tristesse va produire l'endurcissement, mais l'autre va produire le changement. Et c'est à travers l'expérience de Paul avec l'église de Corinthe que nous allons voir comment Dieu veut nous accompagner au cœur de la tristesse qui produit le changement, afin que notre expérience, si douloureuse soit-elle, se termine en restauration et en victoire. Le premier point ce matin, il y a tristesse et tristesse. 2 Corinthiens 7, 10, en effet, la tristesse conforme au dessein de Dieu, si elle est portée comme Dieu le désire, produit un changement d'attitude qui conduit au salut et que personne n'a encore eu à regretter. La tristesse, selon le monde, mène au désespoir et à la mort. Avant d'analyser ces deux types de tristesse identifiés par Paul, je crois qu'il est important de comprendre le contexte de ce propos de Paul. Paul entretenait une relation compliquée avec l'église de Corinthe. C'est une église qu'il avait fondée pendant son second voyage missionnaire. Et ensuite, il a eu souvent des contacts avec cette dernière parce qu'il y avait beaucoup de problèmes et des différents péchés au sein de l'église. Et les Corinthiens ne cessaient de tomber dans divers péchés. Et entre sa première lettre aux Corinthiens et la seconde, ce dernier leur avait rendu visite pour aller y régler un problème sur place. Et quand il y est allé, c'est là où son ministère et son autorité ont été remis en question par des gens de l'Église. Son ministère a été attaqué. Certains semaient au milieu du peuple de faux enseignements ainsi que de la division dans l'espoir que Paul soit rejeté par l'Église. Et donc, Paul envoie une lettre ferme, une lettre sévère à cette Église où il dénonçait le péché qui avait pris place, qui s'était installé au sein de la communauté. Et on voit que cette lettre, elle a eu des répercussions positives dans le cœur des uns et des autres. C'est Tite, le collaborateur de Paul, qui avait été envoyé sur place, qui va constater que la lettre sévère que Paul avait envoyée avait produit du fruit dans le cœur des Corinthiens, et il rapporta ça à Paul. Et c'est dans ce contexte que Paul réécrivit notre lettre, la deuxième aux Corinthiens, et qui est notre texte à l'étude aujourd'hui. Vous savez, une des difficultés pour bien comprendre une épître, pour comprendre les lettres qui sont dans la Bible, c'est que ces dernières sont souvent et la plupart du temps des lettres de circonstances, c'est-à-dire qu'elles répondent à des problèmes précis. On trouve, nous, les réponses à des problèmes dont on n'a pas les questions, puisqu'on n'a pas les questions qui ont été suscitées et posées par les églises. Donc, elles répondent à des questions où nous, on a peu de détails sur l'origine. C'est un peu lorsque, pareil que quand on écoute quelqu'un qui parle au téléphone. On entend les réponses de la personne, et au travers de ces réponses, on essaye de deviner c'est quoi la conversation. On entend juste un des interlocuteurs. Donc le but du message de ce matin, c'est de sortir l'enseignement général, l'enseignement universel que Paul veut communiquer au travers de ce conflit qu'ils avaient pu vivre avec les Corinthiens et voir comment Dieu veut nous parler au travers de ça. Ici, Paul souligne deux types de tristesse, une selon Dieu et une selon le monde. Le terme grec employé pour tristesse ici, c'est loupéo, qui nous parle d'être affligé et d'être jeté dans la douleur. La difficulté est de savoir laquelle nous anime lorsque nous sommes confrontés à nos situations et dont nous ne pouvons pas être fiers, lorsqu'on nous met face à des situations dont on ne peut pas être fier, lorsqu'on est confronté à nos fautes et à nos erreurs. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, les larmes coulent, on éprouve du chagrin et de la mélancolie. Il y a de la peine, il y a de l'abattement, il y a des larmes qui sont versées, et tout ceci, c'est bien réel, et tout ceci est bien authentique. Comme le fait remarquer Yves Lambert dans son livre « Être libre, c'est possible », il dit « La question n'est pas de savoir si la personne est réellement triste, mais plutôt de connaître la cause de la tristesse. » Combien de fois j'ai été confronté à des gens qui pleuraient avec des belles larmes de crocodile dans le bureau, mais ça ne changeait strictement rien à leur vie derrière. Des larmes, il y en a tout le temps lorsqu'on est confronté à soi-même, lorsqu'on est confronté à notre péché. Paul explique dans ce passage qu'une tristesse produit le changement, l'autre produit le désespoir. La tristesse du monde correspond à celle qui se produit dans une personne dont la nature, la pensée, le cœur sont corrompus par le péché. Depuis que l'homme s'est détourné de Dieu par la désobéissance à ses commandements, l'homme agit de manière égoïste, égocentrique, et tous nos choix sont gouvernés par l'orgueil. Et lorsque nos erreurs sont mises en avant, lorsque nos erreurs sont découvertes, on est triste de s'être fait prendre, mais pas triste d'avoir fait une erreur. Les individus qui éprouvent cette tristesse sont dans la souffrance parce qu'ils perdent ou craignent de perdre ce que le monde peut leur offrir. Ça peut être la réputation, ça peut être un travail, ça peut être la perte du succès et toutes sortes de choses. Je pense que nombreux parents dans cette salle ce matin ont déjà assisté aux larmes et aux crises d'enfants dont le monde s'écroule parce que vous avez refusé le bonbon ou le jouet supplémentaire. Et ils sont partis en crise et en pleurs, etc. Toute cette tristesse égocentrique qui est en train de se manifester. J'ai fait la même chose avec ma mère. Lorsque j'étais encore dans la police, j'amenais régulièrement des gens au tribunal pour se faire juger. Et bien souvent, ces gens pleuraient. Mais ils ne regrettaient pas ce qu'ils avaient fait, mais plutôt le fait de s'être fait prendre et de devoir assumer les conséquences de leurs actes. La tristesse, selon le monde, n'est rien d'autre qu'un orgueil blessé d'avoir été pris en flagrant délit, de péché et de ne pas avoir pu assouvir les désirs de notre nature corrompue. Yves Lambert dira encore « La tristesse du monde sans Dieu n'a qu'un but en tête, préserver ses objets de désirs égoïstes. Toutes les larmes et toute la douleur portent en réalité sur la perte de ces choses. » Le cœur ne change pas dans cette tristesse, il est toujours tourné sur lui-même. Nous sommes toujours le centre, nous sommes toujours le nombril de notre monde et nous sommes attristés que nos fautes soient vues. La tristesse du monde est accablée parce que votre péché est connu des autres. La tristesse selon Dieu, elle est bien différente. Même si elle paraît tout aussi triste que la tristesse du monde, elle produit quelque chose dans le cœur de celui qui la traverse. Celui, ce qui cause le chagrin de la personne, ce qui lui brise le cœur, c'est de savoir qu'il a attristé Dieu et qu'il l'a offensé. Notre texte nous dit que cette tristesse produit un changement d'attitude. Le terme employé ici, c'est le terme grec « métanoïa ». La métanoïa, c'est un changement de mentalité, c'est un changement d'intention, c'est un changement d'avis. C'est une tristesse qu'on éprouve à cause de nos péchés et de la douleur d'avoir offensé Dieu. William MacDonald, le théologien, dira « Le coupable sait que Dieu lui parle. Il se place donc aux côtés de Dieu, contre lui-même et contre son péché. La tristesse, selon Dieu, reconnaît donc ses erreurs et les affronte, mais ne cherche pas à les cacher ou à se dédouaner. Je me rappelle d'un gars qu'on avait conduit au tribunal devant le juge pour de la détention de stupéfiants. Et il y avait une perquisition qui avait été faite chez lui et puis de la substance avait été découverte. Et quand il était devant le tribunal, il dit « Mais attention, c'était pas ma chambre, c'était la chambre de mon frère. » Le frère, il avait 4 ans. On cherche à se dédouaner, on cherche à cacher notre faute au lieu d'en assumer les choses. Voilà la tristesse selon le monde. Paul dit que la tristesse selon Dieu, elle produit le salut. Le terme employé ici, c'est le terme sotéria qui signifie délivrance, conservation, sûreté, sécurité et encore salut. Vous savez, nous avons tout à gagner à rester vrai et authentique sur nous-mêmes. Lorsque nos erreurs sont pointées, que ce soit nous qui en prenions conscience ou quelqu'un d'autre qui nous le fasse remarquer, il est vital de les reconnaître et désirer changer de direction pour être délivré. Proverbe 28:13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. » Lorsque nous sommes vrais, lorsque nous sommes sincères et avec ce désir de changer, on obtient la compassion, on nous fait grâce. La grâce est un cadeau immérité, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. On nous fait grâce. Regardons ce que l'apôtre Jean dit dans sa première lettre et ça va rejoindre un des dons spirituels de ce matin, 1 Jean 1, 6 à 9, où Jean nous dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en nous. » Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Ici, Jean nous invite à marcher dans la lumière de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe lorsque je marche en pleine lumière? Eh bien, regardez, quand je marche dans la lumière, ça expose mon ombre. Mon ombre est exposée par la lumière. Lorsque nous marchons dans la lumière de Dieu et dans la lumière de sa parole, cela expose nos zones d'ombre. La parole révèle ce qu'il y a de caché en nous. Lorsque nous décidons volontairement d'exposer nos vies et de l'examiner à la lumière de la parole de Dieu, elle va révéler nos failles. Si nous acceptons de reconnaître ces failles, que nous ne cherchons pas à les cacher, c'est exactement ce que Jean est en train de dire. Si on marche dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'on ne révèle pas nos zones d'ombre, on ne peut pas être pardonné. Mais si on marche dans cette lumière de Dieu qui expose mes ombres, je suis en communion avec les autres et le sang de Jésus me purifie du péché. Tout péché non confessé ne peut être pardonné. On a besoin d'exposer nos vies à la lumière de Christ. Si on accepte de reconnaître nos failles, c'est alors que l'œuvre de Jésus accomplie à la croix est efficace. Jésus a dit qu'il était venu pour sauver ceux qui se reconnaissaient comme malades et non comme ceux qui se prenaient pour des gens bien portants. Vous savez, tout le monde est malade. Mais il y a des gens qui croient et qui sont bien portants. Jésus a payé le prix à la croix pour nous pardonner et pour nous purifier. Ça transforme nos vies. Ça change nos vies. On arrive au deuxième point ce matin. La souffrance liée à la tristesse est source de délivrance. 2 Corinthiens 7:9. Mais aujourd'hui, Paul dit, je me réjouis, non certes de votre chagrin, mais de ce que cette lettre vous ait amené à changer d'attitude. Quoique la lettre de Paul ait attristé les Corinthiens au départ, elle les a conduits à la repentance. Elle les a conduits à ce changement de mentalité. Et dans le passage qu'on a vu avant, que le sang de Jésus nous purifie, le principe, vous savez, de la purification, ça peut entraîner de la tristesse et de la douleur. Vous savez comment on purifie de l'or? Pour purifier de l'or, on le fait fondre afin que les impuretés disparaissent. En effet, les métaux qui sont voisins de l'or ou des résiduels comme le plomb, le fer, le zinc s'oxydent plus facilement et fondent pour donner des silicates ou des borates qui s'évacuent avec les scories. Vous savez, il n'est pas simple de reconnaître nos torts, ça peut chauffer un petit peu. Mais il est important que l'image que nous avons cherché à projeter de nous-mêmes puisse tomber. Et c'est salutaire à la fin, parce qu'on est débarrassé de ces impuretés qui empoisonnent nos vies. C'est difficile d'aller voir quelqu'un et dire « je me suis trompé ». C'est difficile de dire « là, je me suis planté ». Cette douleur d'affronter ça n'est rien en comparaison de la victoire qui va en découler derrière. Hébreux 12, 11 nous dit « certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice ». Denis Morissette dit la phrase suivante, je vais vous la répéter deux fois pour que vous puissiez la comprendre. « Souffre ce que tu as à souffrir pour ne pas avoir à souffrir ce que tu n'as pas à souffrir. » Souffre ce que tu as à souffrir pour ne pas avoir à souffrir ce que tu n'as pas à souffrir. Jésus a souffert à la croix pour t'éviter la souffrance que tu méritais à cause de tes erreurs, à cause de tes fautes, à cause de tes péchés. Mais pour que tu sois au bénéfice de cette œuvre, il faut passer par la souffrance de reconnaître que tu es un pécheur. Pour passer par cette souffrance de dire « mais oui, j'ai commis des erreurs, oui, j'ai commis des fautes, oui, j'ai fait du mal peut-être autour de moi. » Passer par cette souffrance-là et ensuite chercher à le réparer. Vous savez, il y a des personnes qui ont tellement peur d'aller chez le dentiste qu'ils attendent que le mal dans la bouche ait fait des dégâts sur toutes les dents, un mal extrême pour enfin passer la porte du cabinet dentaire et dire « Docteur, au secours, j'ai mal ». Vous saviez, si on affronte notre peur du dentiste au départ alors qu'il y a juste une petite carie, on transperce la souffrance de la douleur qui est là pour cette petite dent qui a besoin d'être soignée, mais ça va nous épargner tout un haut niveau de souffrance après. Si j'affronte ma peur au départ de cette petite souffrance qui est là, ça va m'éviter d'avoir toutes sortes de souffrances bien pires derrière. On arrive au troisième point, la tristesse, selon Dieu, produit des changements. De Corinthiens 7, 11, Paul dit « Voyez quels effets elle a produit en vous. Quel empressement, quel sérieux. Bien plus, avec quel zèle vous m'avez défendu, quelle excuse, quelle protestation de loyauté. Vous avez pris conscience de la gravité de la faute. Vous avez exprimé votre indignation. Vous avez pris peur. Vous désiriez ardemment me voir. » Les Corinthiens étaient tombés dans la division. Ils s'étaient laissés influencer par des éléments perturbateurs qui critiquaient Paul, qui critiquaient son ministère et qui cherchaient à prendre le pouvoir dans l'Église. Et grâce à la lettre de Paul, on l'a vu, la lettre sévère qu'on n'a plus aujourd'hui, les Corinthiens ont été attristés et se sont repentis. Le résultat de cela, ils se sont empressés de réagir. Vous savez, la repentance comporte une conduite qui vient se soumettre aux exigences de Dieu et qui recherche son pardon. La repentance produit des actes. La relation entre Paul et ces derniers était chaotique, mais leur repentance a changé les choses. Paul était même attristé de leur avoir envoyé cette lettre, mais quand il a vu ce que ça avait produit en eux, il a dit « mais je n'ai pas besoin de me repentir de la souffrance que je vous ai donnée parce que c'est Dieu qui l'a provoquée pour votre changement. » Ça a changé les choses entre Paul et cette église. Et on voit que les Corinthiens ont cherché à rebâtir, à rétablir les relations. Ils ont manifesté leur rejet de ces faux discours, de ces faux enseignants qui étaient là, et toutes leurs mauvaises paroles, et ils se sont positionnés du côté de Paul. Ils ont donc posé concrètement des actions. Vous savez, la tristesse qui plaît à Dieu se manifeste par le souci de restaurer les relations brisées. Vous savez, le péché nous sépare des autres. Le péché apporte la division, le péché apporte la séparation. Il crée une distance au lieu de forger une intimité. Vous savez, quand des gens des fois disent « je veux tirer un trait sur le passé, je ne veux plus entendre parler de cette histoire, je ne veux plus entendre parler de cette personne, je ne veux plus entendre parler de ces circonstances », sans chercher à les régler, en s'habituant à des relations, à vivre dans des relations brisées, c'est que la tristesse ne vient pas de Dieu. Si vos larmes vous poussent à fuir les autres au lieu de courir vers eux, elles sont du monde. Les Corinthiens ont non seulement défendu Paul, mais ils se sont excusés. Ils ont reconnu, on l'a lu, l'indignation de leur attitude. J'ai envie de vous poser la question ce matin, c'est quand la dernière fois vous avez demandé pardon à quelqu'un pour votre attitude? C'est quand, monsieur, que tu as demandé pardon à madame? C'est quand la dernière fois que c'est arrivé? C'est quand, madame, la dernière fois où tu as demandé pardon à ton mari? C'est quand la dernière fois où des parents ont demandé pardon peut-être à leurs enfants pour des réactions non appropriées, même s'ils ont fait une bêtise? C'est quand la dernière fois? Vous savez, certains chrétiens ne s'adressent plus la parole depuis des années parce que l'orgueil a tellement pris place en eux que personne ne veut prendre l'initiative de la réconciliation. Alors en plus, dans une grande église comme nous, c'est facile. C'est facile de s'éviter, l'autre sort à droite, je regarde un petit coup et j'y esquive par la gauche, ou de la gauche à la droite, devant, derrière, comme vous voulez. On peut chercher comme ça à fuir toute une vie, être dans la même église, et plus du tout s'adresser la parole, ne pas chercher à rétablir les relations. Vous savez, je l'ai déjà dit souvent, mais le diable se fout de savoir qui a raison ou tort. Ce qu'il veut, lui, c'est la division. Il se fout de savoir qui a tort ou qui a raison. Le plus important, vous savez, n'est pas de savoir qui a raison dans une situation, mais le plus important, c'est la relation. Parce qu'il y a des gens, ils auront raison, mais ils finiront à avoir raison tout seuls, séparés de tout le monde, coupés de tout le monde, imbus de leur propre personne. Je le dis souvent aux couples, mais quand l'un veut gagner sur l'autre en disant « c'est moi qui ai raison » ou tout ce genre de paroles, c'est le couple qui perd. À chaque fois où il y en a un qui veut s'imposer sur l'autre et qu'il a l'impression d'avoir remporté une victoire, en fait, c'est le couple qui est en train de perdre. Vous savez, on ne se marie pas l'un contre l'autre. On se marie ensemble, pour ensemble pointer les regards vers Jésus. Ensemble se tourner pour pointer les regards vers Jésus. Ensemble de dire, il y a une situation problématique devant nous, mais on n'est pas là à s'imposer l'un contre l'autre. Ensemble, on va regarder pour bâtir et trouver une solution à ce problème. On ne se marie pas l'un contre l'autre. Et quand l'un cherche à gagner sur l'autre, c'est le couple qui perd à chaque fois. Vous savez, on a besoin d'humilité pour faire le premier pas. On a besoin d'humilité pour venir et revenir vers l'autre. J'ai déjà cité ce verset la semaine dernière, mais je crois qu'il est vital et je crois vraiment que Dieu veut mettre l'emphase pour nous particulièrement en tant qu'Église de l'Épi. Romains 12, 18 nous dit « Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes ». Vous savez que quand on dit avec tous les hommes, ça comprend tous les gens qui sont autour de nous. Ce n'est pas que les hommes lointains dans un monde qu'on ne connaît pas et finalement dire « mais moi je suis en paix avec eux ». Moi je suis en paix avec les Azerbaïdjanais ou les Arméniens qui sont à l'autre bout du monde. Non, le texte qui nous dit là, c'est « sois en paix avec ceux qui sont dans ta réalité présente ». Sois en paix, sois artisan, sois bâtisseur, sois constructeur de cette paix. Ce passage nous invite à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rétablir la paix. On l'a vu la semaine dernière, pour rétablir le shalom, qui est cette harmonie qu'il y avait à la création. Dieu veut nous utiliser, nous qualifier en tant que corps de Christ pour être des bâtisseurs de paix, de bâtisseurs de relations, des reconstructeurs de relations brisées. Alors peut-être que tu te dis, mais moi, j'y arrive pas. Peut-être que tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai déjà essayé. Vous savez, la grâce de Jésus n'est pas seulement un cadeau qui lui a été fait il y a 2000 ans à la croix. Elle est une puissance au sein de nos combats, au sein de nos difficultés, au sein de nos luttes, au sein de nos faiblesses. De Corinthiens 12, 9 nous dit, « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est lorsque l'on se reconnaît comme dépassé que la puissance de la grâce peut prendre le relais. C'est quand tu dis que tu es arrivé au bout de tes limites et que tu dis « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce ». C'est à ce moment-là où la grâce de Dieu peut venir comme une puissance et te faire vivre des choses que tu ne peux pas vivre par toi-même. C'est quand tu es là devant le trône et dire « Seigneur, cette situation, c'est trop pour moi, mais j'ai besoin de toi ». Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de ses détresses. C'est ça que la Bible me dit. Et il est possible d'affronter des situations qui nous dépassent par la puissance de la grâce de Dieu. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est venu pour mourir pour nos péchés, mais il est venu aussi pour transformer nos vies au quotidien et encore en 2019. Quelqu'un devrait dire amen. Quelqu'un devrait dire amen ce matin. Jésus fait la différence. Par la grâce de Dieu, nous avons la puissance pour être ces vecteurs de paix relationnelle. Cessons de regarder à nous et à nos capacités limitées et fixons nos regards vers le Dieu qui a des capacités illimitées. Il est le Dieu puissant. Il est celui qui peut changer le mal en bien. Soyons de ceux qui tendent la main et non de ceux qui ferment le poing. Soyons de ceux qui tendent la main à l'autre et pas qui ferment le poing à l'autre. Nous sommes appelés à faire la différence. C'est ce genre de tristesse-là qui doit nous animer. Cette tristesse selon Dieu. C'est cela, être un disciple de Jésus-Christ. Regardez ce que Jésus dira. Je vais inviter le groupe à s'approcher. Dans Matthieu 5, qui est le Sermon sur la montagne. Le Sermon sur la montagne, c'est le grand livre, la grande partie de l'évangile de Matthieu qui décrit comment un disciple de Jésus doit fonctionner et évoluer dans sa réalité. Et Jésus dira, « Si donc tu es en train de te rendre à l'autel pour y présenter ton offrande, et que là, soudain, tu te souviennes qu'un frère ou une sœur a quelque chose contre toi, laisse ton offrande au pied de l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. » Vous savez, ce qui est premièrement spirituel pour Dieu, ce n'est pas le rituel religieux, ce n'est pas de venir chaque dimanche vous asseoir sur cette chaise et dire amen quand le pasteur dit une belle phrase. Ce qui est premièrement spirituel pour Dieu, c'est le relationnel. Il dit, va donner ton offrande, ok, mais d'abord va te réconcilier. L'offrande, c'est important. Mais ne va pas mettre ton offrande en disant, c'est bon, je suis un bon chrétien, tout en faisant, excusez-moi le terme, la gueule à ton voisin. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis apporte ton offrande. Le vrai spirituel, c'est le relationnel. Je crois que le désir de Dieu ce matin est que nous puissions avoir un regard lucide sur nous-mêmes. Lucide sur nos erreurs. Ces erreurs que nous pouvons commettre. Et lorsque nous sommes confrontés à nos erreurs, lorsque nous sommes confrontés à nos manquements, lorsqu'elles sont révélées, que nous ne cherchions pas à les dissimuler, à les cacher en disant « c'est pas ma chambre, c'est celle de mon frère de 4 ans », mais à les reconnaître et à les abandonner, en faisant tout ce qui est en notre pouvoir pour nous racheter. Et Jésus nous assure que lorsque nous sommes dans cet état d'esprit, il va nous prendre par la main et il va nous accompagner. Et lorsqu'on va être au bout de nous-mêmes, la grâce ne va pas simplement nous porter, mais elle va nous supporter. Et elle va nous transporter. La grâce de Dieu est la puissance encore en 2019. La grâce de Jésus est encore ce qui fait la différence en 2019. Affronter, abandonner. Dieu veut nous accompagner dans ce processus qui peut être parfois douloureux au départ, mais glorieux à la fin. Je me rappelle en 2012 quand on a dû se poser avec Anne-Laure pour discuter, alors qu'on allait divorcer et qu'on aimait Jésus. Ça a été super dur de se poser et dire faut qu'on discute et il faut qu'on mette à plat. Et qu'on puisse se demander pardon mutuellement pour les erreurs qu'on a faites. Ça fait mal sur le moment, mais c'est glorieux aujourd'hui. C'est glorieux aujourd'hui 7 ans après. 7 ans après parce que la grâce de Dieu est capable de faire des choses complètement folles. Alors vous savez, j'aime bien parler de mes faiblesses, parler de nos combats, parce que je crois que c'est là où on peut s'identifier et vivre une réalité avec ce Dieu qui fait la différence encore aujourd'hui. Celui qui nous appelle à un changement de mentalité, un changement de voie par rapport à nos fonctionnements. Mais il ne faut pas avoir peur lorsque Dieu met le doigt sur un fonctionnement dysfonctionnel chez nous. Vous savez, quand Dieu met le doigt sur quelque chose, ce n'est pas pour nous offenser, pour nous enfoncer pardon, et nous écraser. Mais c'est pour pouvoir nous relever et nous faire devenir des vainqueurs avec Jésus. Quand Dieu met le doigt sur ton péché, ce n'est pas pour te condamner ce matin. C'est pour te relever et pour transformer ta vie. Dieu n'est pas venu appeler des saints ou des bien portants, mais il est venu appeler des pécheurs à la repentance. Dieu est venu pour changer des vies. Paul disait, je suis le premier des pécheurs. Si l'apôtre Paul avait besoin de la grâce de Jésus, à combien plus forte raison nous avons besoin de la grâce de Jésus pour tenir ferme dans une société égoïste, égocentrique, où le seul intérêt des gens, c'est eux-mêmes. L'évangile nous appelle à autre chose. Et je crois qu'avec Jésus, il existe autre chose. Il existe une autre voie. Il existe une autre voie pour ton couple. Il existe une autre voie pour ta famille. Jésus est celui qui peut changer des choses. Mais encore faut-il que tu acceptes le doigt qui se pose sur certaines zones d'ombre de ta vie. Que tu acceptes de marcher dans la lumière de la parole qui va révéler cette zone d'ombre. Et dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour cette ombre qui est là sur ma vie. Et Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer dans ta situation. Islambert dira encore, si votre tristesse ne vous amène pas à vous confier à d'autres et à vous rendre vulnérable, c'est qu'elle vient du monde. Soyons vrais les uns envers les autres afin d'être libres. Jacques nous dira, confessez donc vos péchés les uns aux autres afin d'être guéris. Nous souvent on retient juste, va voir les anciens qui toignent d'huile et tu seras guéri. Le passage nous dit aussi, confessez vos péchés les uns aux autres afin d'être guéris, afin d'être délivrés, afin d'être libérés. C'est cette culture que nous voulons vivre à l'Épi. Parce que nous croyons à la bonne nouvelle de la grâce de Jésus qui pardonne et qui transforme des vies encore aujourd'hui. Vous savez, je crois que si on commence à entrer dans cette attitude de pardon, cette attitude de vulnérabilité, cette attitude de savoir demander pardon, cette attitude peut devenir contagieuse et faire la différence dans notre société. Parce que vous savez, un chrétien, il n'est pas meilleur qu'un non-chrétien. La seule différence, c'est qu'il saura demander pardon. On n'est pas meilleur que les autres. Mais on a un Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. Au-dessus de tous les faux dieux. Un Dieu qui veut nous prendre par la main et nous accompagner. On n'est pas meilleur que les autres. Mais par la grâce de Dieu, on peut faire des choses que les autres ne vivent pas. Parce que Jésus est à nos côtés. Parce que Jésus pointe, nous accompagne, nous porte, nous transporte et nous change nos vies. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse se tenir dans la présence de Dieu. Si t'es interpellé dans ton cœur ce matin, je t'invite simplement à te mettre debout pour dire, ben, Seigneur, oui, je vois que tu mets le doigt sur certaines choses de ma vie. Et Seigneur, ce matin, je ne veux plus me cacher. Je ne veux plus me cacher devant toi ou devant les autres. Mais je veux m'attendre à ton œuvre dans mon cœur et dans ma vie. Peut-être le Seigneur t'appelle à aller demander un pardon à quelqu'un. Peut-être ça ne va pas être facile. Mais si tu souffres ce que tu as à souffrir, tu n'auras pas à souffrir ce que tu n'as pas à souffrir. Peut-être demander pardon pour une attitude, un geste, quelque chose qui n'a pas été à la gloire de Dieu et qui a fait du mal à côté de toi. Saint-Esprit, je te prie de souffler, Seigneur, et de donner le courage des convictions à ceux qui se sont levés ce matin. Seigneur, moi je ne suis pas dans leur vie, mais toi tu connais chacune de leur vie. Et je suis convaincu que le regard que tu poses ce matin sur l'Assemblée, un regard de compassion pour dire j'ai envie de vous sortir de là. Vous savez, il y a deux attitudes possibles, il y a celle de Pierre et de Judas. Les deux ont trahi Jésus. Mais il y en a un qui s'est isolé, qui s'est enfermé sur lui-même et qui s'est pendu. Il y en a un autre qui a vendu, qui n'a pas reconnu devant tous que Jésus était son Seigneur. Mais lorsqu'il a croisé le regard du Seigneur, il s'est rendu compte qu'il avait fait du mal à son Père céleste. Quand il a eu l'occasion de le recroiser, il a plongé, il a sauté pour venir au pied du Maître. Notre solution, frères et sœurs, c'est de venir au pied du Maître. Au pied de celui qui a dit, par ses meurtrissures, vous êtes guéri. Celui qui a dit, tout est accompli à la croix, tout est accompli pour tes erreurs, tout est accompli pour tes manquements. Tout est accompli. Entre dans cette marche où Jésus t'invite à aller. Et vois ce que les autres ne voient pas parce que la puissance de la grâce veut se manifester. Seigneur, je te prie ce matin pour l'Église. Je te prie pour ceux et celles qui sont avec des luttes. Peut-être ceux qui sont en violence, alors peut-être pas en violence physique, mais en violence verbale avec leur conjoint. Pour ceux qui n'arrivent plus à se regarder dans les yeux. Je te prie pour un souffle de pardon ce matin. Je te prie pour qu'un vent de ton esprit souffle sur nos foyers, nos familles. De savoir regarder l'autre dans les yeux, lui dire pardon pour le mal que je t'ai fait. La grâce peut nous surprendre, frères et sœurs, ce matin. Je te prie pour les couples, je te prie pour les foyers, je te prie pour les familles en division. Je te prie là où il y a une œuvre de l'ennemi qui cherche à diviser et à détruire. Je crois que tu es le Dieu qui rebâtit sur des ruines. Tu es celui qui reconstruit sur des ruines. Et je te prie de souffler ce matin. Je te prie de toucher, d'encourager, de porter. de donner le courage des convictions. Tu seras avec eux pour affronter ce qu'ils ont affronté, afin d'expérimenter la libération des enfants de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues et sont en train de devenir nouvelles. Dieu veut faire une œuvre au milieu de nous ce matin. Seigneur, touche encore, visite et encourage, fortifie, porte, relève dans ce lieu. Merci Père pour ta grâce. Merci pour la grâce. Merci Seigneur parce qu'on ne méritait rien, mais dans ton amour, tu nous as tout donné. Afin que nous puissions être réconciliés avec le ciel, mais réconciliés aussi avec les autres. Seigneur, que nous puissions briller au sein de cette génération. Que nous puissions resplendir de ta lumière. Cette lumière qui restaure, qui change et qui bouleverse les circonstances encore aujourd'hui. Sers-toi de nous, Père éternel. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage face à vos épreuves. Il y a une tristesse qui débouche sur la joie. Que nous puissions entrer dans cette tristesse qui débouche sur la joie.